Ma femme est roumaine. Mon fils est franco-roumain. Il a 3 ans depuis qu'il est né. On a vécu 2 ans en Roumanie, 8 mois en France et 4 mois aux États-Unis. Voilà sa vie. Et quand il était aux États-Unis, il était dans une garderie où il parlait espagnol. Mon fils ne parle pas encore. Il a été tellement mélangé toutes les langues. Mais on nous dit qu'il sera sûrement trilingue quand il va grandir. On espère. Partant de ce départ, j'ai constitué un message qui s'appelle « Si Dieu est bon, si Dieu nous aime, pourquoi la tour de Babel ?» Si Dieu est bon, si Dieu veut le meilleur pour nous, pourquoi la tour de Babel ? J'en connais quelque chose. Quand on a commencé à se fréquenter avec ma femme, elle parlait un tout petit peu anglais, je parlais un tout petit peu roumain. Ça nous a mis du temps à nous comprendre les uns les autres. Si Dieu est bon, si Dieu nous aime, pourquoi Babel ? On va lire le texte dans quelques instants. Juste avant de lire le texte, on va introduire ce texte. Tout le monde connaît la Genèse, oui ? Chapitre 20, on est d'accord ? Dieu a un plan super. Dieu veut créer l'humanité, et ce qu'il veut mettre au sommet de l'humanité, il veut créer l'homme. Ça, c'est le super plan de Dieu. Il a un plan, son plan est génial, il est plein d'amour, il est plein de bonnes choses. Dieu crée Adam, Dieu crée Ève. Un temps après, Adam et Ève, on connaît l'histoire. Dieu regarde ça, il avait un plan super. Il regarde ça. Il dit, c'est ok. Je vais trouver une autre situation. Ils peuvent plus vivre avec moi dans le jardin d'Éden. Mais je vais quand même leur pourvoir une place, je vais quand même prévoir quelque chose. Et j'ai quand même un plan pour eux. Alors Dieu se dit, j'ai un plan. Il y a Adam et Ève, j'ai un plan pour eux, ça va être super. Viens Abel, Caïn, déjà, un petit souci. Quelques temps après, Dieu voit tout ça. Il dit, j'avais un plan pour eux. Et voilà ce qu'ils font. Vous savez ce qui se passe après? Dieu envoie le déluge. Il dit, je supporte pas tout ça. Il envoie le déluge. Et il choisit Noé. Dieu recommence. Dieu dit, j'ai un plan. Un plan avec l'humanité. J'ai un plan super. Il y a Noé, il y a sa famille. J'ai un plan. C'est dans ce contexte-là où Dieu, des fois, déjà, c'est la troisième fois qu'il dit qu'il a un plan avec nous. C'est dans ce contexte-là que les hommes pensent à la tour de Babel. Et on va lire le texte dans Genèse 11, versets 1 à 9. Merci. Je vais commencer cette réflexion par deux témoignages que j'ai entendus qui m'ont marqué. Le premier, c'était une dame, quand j'étais à New York, qui prenait le micro en face de l'église. Et elle nous racontait plein de choses qui étaient arrivées à elle. Mais pas des bonnes choses. Elle disait, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et Dieu a attiré mon attention. J'ai eu tel problème, et Dieu a attiré mon attention. Et ça m'est resté gravé dans ma tête parce qu'elle rayonnait. Elle rayonnait de joie, de paix. Et elle racontait les soucis. Et elle disait, à travers ses soucis, Dieu a attiré mon attention. Il m'a attiré mon attention à lui. Ça m'a toujours marqué. J'ai fait, c'est qui ce Dieu qui attire l'attention de telle manière? Pourquoi Dieu fait ça? Premier témoignage. Deuxième témoignage. Une fille, une amie, quand on était étudiant, chrétienne, avec qui on faisait l'évangélisation. Et puis, j'avais un feu bouillant pour partager Dieu. Et puis, un jour, je lui raconte, je lui dis, je sais pas comment les gens ils font pour vivre sans Dieu. J'arrive pas à croire. Dieu nous apporte tellement de choses. Comment les gens vivent sans Dieu? Et elle me regarde et fait, moi, je comprends tout à fait. Vivre sans Dieu, je crois pas que c'est un souci. Je comprends tout à fait. Deux témoignages. Une fille qui a eu des soucis, qui parle devant l'église pleine de joie, qui rayonne, qui dit, j'ai eu plein de soucis et Dieu a tiré mon attention. Une autre qui avait tout. Des amis, la santé, une situation. Puis elle dit, moi, vivre sans Dieu, je peux comprendre. On va relire le verset 6 de ce texte. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Dieu a un plan. Ce sera mon premier point. Dieu a un plan. Et dans son plan, Dieu veut vivre avec nous. Dieu veut pas qu'on soit sans lui. Dieu a un plan. Je réfléchissais à ça encore. J'ai 5 sœurs. J'aurais dû comprendre le monde féminin. Depuis que je suis marié, j'ai compris que je le comprenais pas encore. J'ai lu un livre cette année sur le comment pensent les femmes. Ça m'a beaucoup aidé. Comment pensent les hommes aussi. Ça l'a beaucoup aidé, elle. Mais comment pensent les femmes. Et puis, Il expliquait dans ce livre que l'homme a toujours besoin d'aventure et la femme, elle veut faire partie de cette aventure. Elle veut faire partie, elle veut être là. C'est la même chose avec Dieu. Dieu, c'est comme une femme. Il veut pas que les hommes soient loin. Il veut faire partie de l'aventure. Il veut être là. Il va tout faire pour attirer l'attention des hommes, pour faire partie de l'aventure. Dieu veut pas que les hommes soient indépendants. Dieu a un plan, et mon premier point, c'est que Dieu a un plan, et dans son plan, il veut le faire avec nous. Si Dieu est bon, si Dieu existe, pourquoi Babel? Premier point de partage. Dans son plan, Dieu veut être avec nous. Il veut être avec nous, il nous aime, il nous cherche, il veut être avec nous. Deuxième point, je prends mon témoignage personnel. Je vous ai dit donc qu'à 18 ans, j'ai senti dans une prière que j'étais appelé à partir en mission. Et à 19 ans, je suis parti à New York. Je parlais pas trop anglais. Et j'ai subi ce qu'on appelle un choc culturel. Qui a vécu ici dans sa vie un choc culturel au moins une fois? Levez la main. Ouais. C'est agréable, pas agréable. J'ai toujours eu beaucoup d'amis quand j'ai grandi. J'ai toujours eu une famille qui m'aime. J'ai toujours été bon à l'école. Dans mon église, j'ai toujours été un peu un leader. J'ai jamais eu gros soucis. J'ai toujours été bien. J'ai entrepris beaucoup de choses. Je suis arrivé à New York. C'était un pays que je connaissais pas. J'étais personne là-bas. Je comprenais pas leurs blagues. J'arrivais pas à rire à leurs blagues. L'église était très différente de tout ce que j'avais vécu jusque-là. Et j'ai vécu ce qu'on appelle un choc culturel. Et le jour de mes 20 ans, ça faisait 2 mois que j'étais à New York, j'ai eu mon premier jour de déprime de toute ma vie. Alléluia, je sers Dieu depuis 2 mois, c'est mon premier jour de déprime. Alléluia, amen. J'ai vécu ce qu'on appelle un choc culturel. J'avais plus mes repères, j'avais plus mes amis, j'avais plus mon église, l'église dans laquelle on était, c'était très différent. On m'a dit, on loue pas Dieu ici comme ça. Ici, si on loue Dieu, c'est comme ça. Il faut que ça ait du rythme. C'est autre chose. Si tu restes comme ça, les gens vont te regarder avec des grands yeux. Les chocs culturels. Je me suis marié avec ma femme en Roumanie, puis je me suis toujours dit qu'elle aimerait la France. Je me suis dit, punaise, je vais l'amener en France, elle va trop aimer, quoi. Elle va aimer la nourriture, elle va aimer l'église, elle va aimer les gens. Elle est venue, elle a pas supporté. Comment les gens pensaient? Elle aimait pas la nourriture. Et puis elle disait, mais c'est français, ils pensent vraiment très bizarrement. Puis les églises, ils m'en parlent même pas, c'est une horreur. Choc culturel. On est dans un autre pays, tout est différent. Mais tout est différent. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je crois, moi? Le deuxième point, sur lequel je voudrais insister un peu, c'est que Dieu veut qu'on soit plus attaché à lui qu'à nos habitudes. Si Dieu est bon, si Dieu existe, pourquoi Babel? Pourquoi Babel? Parce que Dieu sait que si on est toujours tous ensemble, on va former une espèce de culture. Un peu la mondialisation. On va pas rentrer en politique, j'aimerais. Mais Dieu veut qu'il y ait différentes cultures. Parce qu'il sait que s'il nous envoie dans une autre culture, on sera obligé de chercher lui, pas la culture. J'avais 19 ans, mon père est pasteur, j'ai grandi dans une église. Après ce choc culturel, je me suis dit, qu'est-ce que je crois sur Dieu? Qu'est-ce que je crois de la vie? Je me suis posé ces vraies questions. La seule chose que je savais, c'était que Dieu existait. Sur toute la Bible. J'avais déjà lu la Bible 2 fois, 3 fois. J'avais entendu des prédications tous les dimanches depuis que je suis tout petit. La seule chose que je savais à l'intérieur, c'était que Dieu existait. C'était la seule chose. Le reste, je savais plus quoi penser. Mais plus rien. Alors là, j'étais perdu. La seule conviction que j'avais, c'était que Dieu existait. Mais cette conviction-là, on pouvait pas me l'enlever. On pouvait pas me l'enlever. C'était dur comme du roc. Il m'a fallu ce choc culturel. Il m'a fallu voir autre chose. Il m'a fallu me dire, peut-être que oui, louer Dieu, ça peut se faire autrement que le fait mon église. Peut-être que oui, vivre la vie chrétienne, ça peut se faire autrement que ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu existe. Et je veux vous, comment on va dire ça? Je vais vous défier ce matin. Qu'est-ce que vous croyez vraiment? Si tout change autour de vous, si tout est différent, où sera votre foi? Peut-être que vous avez été un leader là où vous avez été. Vous changez d'endroit. Qu'est-ce que vous croyez sur vous-même? Qu'est-ce que vous croyez sur Dieu? J'en menais pas large avec ma journée de dépression. Je pleurais comme une petite fillette. Et puis, ce qui est sorti de là, c'était que je croyais en Dieu. Et petit à petit, j'ai dû construire ma foi juste à partir de là. Partout où j'allais, qu'importe ce que j'allais vivre, je savais que Dieu existait. Je me suis mis à imaginer une église qui changeait ses habitudes tous les dimanches. Alors essayez d'imaginer avec moi ce matin que la semaine prochaine, vous allez avoir un groupe de hard rock qui vous fait la louange. La semaine d'après, vous allez faire comme beaucoup d'églises en Roumanie, les femmes vont se mettre du côté là, les hommes du côté là, vous allez vous mettre à genoux pendant tout le temps de prière, et puis le pasteur va vous laver les pieds à la fin du culte. La semaine encore d'après, on va tous être à New York, puis vous allez tous devoir louer comme ça, sinon tout le monde va vous regarder avec des grands yeux. La semaine encore d'après, quelqu'un va prendre le microphone, comme ça à la main, au lieu de le tenir là. Ça serait compliqué, hein? Si chaque semaine, l'habillage du culte était différent. Très compliqué. Des fois, on se bat pour garder le chant qu'on aime. Le chant là, je l'aime, il faut qu'on le chante toujours à l'église. Ça, c'est important. Il y a des églises qui sont divisées parce que les jeunes voulaient avoir une batterie et les vieux ne voulaient pas avoir une batterie. Dieu veut qu'on soit attaché plus à lui qu'à nos habitudes. Et c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais merci Seigneur pour Babel, parce que ça nous aide. Merci Seigneur parce qu'on peut aller voir d'autres pays, on peut voir d'autres églises, on voit des choses différentes. Et ça nous rappelle qui est Dieu vraiment, et ce qu'on est nous vraiment. Merci Seigneur pour Babel. Merci parce qu'il y a des pays différents. Merci parce qu'il y a des gens différents qui vivent leur foi différemment. Et pourtant qui sont chrétiens, comme vous et moi. Mais ils le vivent très différemment. Et ça me pousse à penser qu'est-ce que je crois vraiment. Merci Seigneur pour Babel. Parce que tu as un plan et tu veux vivre ce plan avec nous, tu veux pas qu'on soit indépendant de toi. Merci Seigneur pour Babel parce que tu veux qu'on soit attaché plus à toi qu'à nos habitudes. Le troisième point que j'aimerais développer, mais je suis pas assez calé encore là-dessus. Est-ce que certains se sont demandé pourquoi il n'y avait pas à Paris une seule grosse église? Au lieu d'avoir 10 000 dénominations différentes, on aurait une seule grande église qui réunit tous les chrétiens, puis tous les dimanches, ce serait trop bien. Il y en a qui se sont déjà posé la question? Non? Jamais? Oui? Pourquoi il y a des dénominations? Pourquoi? Ma conclusion sera merci Seigneur pour ça, hein. Je vous préviens. Mais je suis passé aussi par cette question. Et j'ai compris que dans la Bible, dans Genèse, Dieu appelle un homme, Abraham, pour le peuple juif. Mais très rapidement après, 2 générations après, il met déjà 12 tribus. Vous me suivez? Dieu appelle le peuple juif. Mais très rapidement dans Genèse, il appelle 12 tribus. 12 tribus distinctes qui font son peuple, le peuple juif. Mais Dieu a voulu 12 tribus. Genèse, le commencement, Dieu met les fondations. À la fin, dans Apocalypse, où Dieu fait la conclusion, où il juge tout ça, il y a combien d'églises? Combien d'églises sont jugées? 7. Pas une église. Pas une église. Intéressant, hein? Pas une église. 12 tribus, 7 églises. Ça vous a jamais marqué? Pourquoi Dieu veut ça? Dieu veut un peuple. Il aime son peuple. Il aime le peuple juif. Il aime le peuple chrétien. Pourtant, à la fin, Dieu juge 7 églises différentes. 7 églises. Ça m'encourage. Dieu veut différentes dénominations. Ça peut paraître très bizarre pour nous des fois. Ça peut paraître compliqué. Dieu a voulu à Babel avoir différents peuples qui parlent différentes langues, qui vont se diriger différemment, qui vont vivre différemment, qui vont faire les choses très différemment. Et Dieu veut aussi dans son église qu'il y ait une diversité. Dieu aime la diversité. Il veut ça. Dans les évangiles, est-ce que vous savez, Jésus, quand il envoie les disciples, comment il les envoie? À quel chiffre il les envoie? 2 par 2. 2 par 2. Je me suis toujours dit, si c'était Jésus, soit j'aurais envoyé les 12 d'un coup, ils auraient été efficaces pour annoncer l'évangile, peut-être en grand groupe, ou si je les avais divisés, j'aurais fait 1 par 1. Ils auraient été dans 12 villes. Mais Dieu les envoie 2 par 2. Dieu veut jamais qu'on vive notre foi tout seul. Il veut pas ça. Il veut l'église locale. Dieu veut jamais qu'on soit tout seul. Il veut qu'on ait un groupe. Mais il veut pas non plus qu'on soit tous ensemble. Dieu veut pas qu'on soit tout seul. Dieu veut pas qu'on soit tous ensemble. Pourquoi? Quelques pistes. Il y aurait plus à dire. Une chose que j'ai compris, en lisant notamment les 12 tribus d'Israël, Dieu veut avoir la liberté d'élever ou d'abaisser certaines tribus. Dieu nous laisse libre de faire certains choix et il veut qu'on apprenne à en tirer les conséquences. Mais il veut pas que ce soit tout le groupe qui porte les conséquences. Seulement le groupe qui fait son choix. Peut-être je vais toucher des points qui fâchent. J'espère que je vais pas vous blesser. J'étais aux États-Unis. Il y en a qui sont anti-américains ici. Il y en a qui n'aiment pas les Américains. J'étais touché par une chose aux États-Unis, c'est que quand ils ont construit leur pays, tous les responsables se sont mis à genoux devant Dieu. C'est quelque chose qui m'a touché à vie. Ils sont mis à genoux devant Dieu pour écrire la Constitution américaine. Pour eux, c'est un gros truc. Hein. Je veux pas glorifier tout ça. Mais je crois que c'est pour ça aussi que Dieu a voulu élever cette nation pendant des années. Ils sont mis à genoux pour demander à Dieu. Les responsables. On imagine Nicolas Sarkozy et tous les ministres dans leur salle qui se mettent à genoux devant Dieu. Ils disent, Dieu, comment on doit diriger la France? Ce serait quelque chose. Hein. Ce serait bien. Hein. Ouais. C'est un pays qui a mis les bases en priant. Puis je crois que c'est pour ça que Dieu l'a élevé. Il y en a qui disent en ce moment que l'Amérique décline. Il y en a qui disent aussi qu'on parle moins de Dieu. Il y en a qui croient plutôt que c'est une conséquence. Parce qu'on parle moins de Dieu au rang de l'État. Peut-être le pays décline. Dieu va avoir la liberté d'élever ou d'abaisser les nations. Il veut avoir cette liberté. On voit tous les pays musulmans. Il n'y a pas un seul pays musulman qui est en paix. Ils sont toujours en guerre. Dieu veut élever ou abaisser les nations. Dieu veut faire ça, il veut avoir la liberté. Et si tout le monde est ensemble, Dieu n'a plus la liberté. Si tout le monde est ensemble, il faudra qu'il y ait quelqu'un qui soit chef de tout le monde. Et Dieu veut rester le seul chef au-dessus de tout le monde, il veut personne d'autre. Quand le peuple juif a demandé un roi, Dieu même s'est énervé. Il aura quand même donné un roi. Mais Dieu voulait rester ce roi à jamais. Il voulait qu'on soit tous connectés à ce roi. Il y a une richesse dans la Bible. Merci Seigneur pour Babel. Pour trois choses. Merci Seigneur pour Babel parce que tu as un plan et tu veux le faire avec nous. Merci Seigneur pour Babel parce que tu veux qu'on soit attaché plus à toi qu'à nos habitudes. Et merci Seigneur parce que tu veux rester toi seul le maître de toute la terre. Et toi tu veux avoir la liberté d'élever et d'abaisser les peuples, les nations, les églises. Et tu veux faire ça parce que tu nous donnes toujours la liberté. Et tu donnes la liberté aux responsables d'église, aux responsables de nation de faire leur choix. Mais ils devront porter leurs conséquences de leur choix. Merci Seigneur pour tout ça. Si Dieu est bon, pourquoi Babel? Je crois qu'il y a beaucoup de choses dans ce texte que j'ai pas vu. Mais ce que j'ai vu, je voulais vous le partager. J'espère que vous avez appris quelque chose de tout ça. J'espère que vous avez grandi de tout ça. Et j'espère que vous pouvez voir un peuple différent, une église différente comme une richesse. Et comme quelque chose qui vous stimule, vous, à vous dire. Qu'est-ce que je crois vraiment? Qu'est-ce que je crois vraiment de tout ça? Je vais prier.